Voilà, vous avez choisi Radio Ndekeluka pour vous informer. Merci pour la confiance. Il est exactement 13h suivant la grande édition de la mi-journée. C'est une présentation de Inès Lorngopo. Inès Lor, bonjour.
Bonjour Nina Verdiane et bienvenue à tous dans cette édition. À la une, les pro-pouvoirs ont manifesté ce matin à Bangui contre Anissé Georges Doléguilé. Ils exigent la levée de l'immunité parlementaire du chef de file de l'opposition. Au sommaire également, la MINUSCA met en garde les groupes armés qui pourront encore perturber le processus d'enrôlement des électeurs dans la Waka et dans l'Ampindé. Et puis la plainte de ceux qui voyagent entre Bangassou et Bombari, le tronçon distant de 350 km est de plus en plus impraticable. Scrabble, Centrafrique contre Congo-Brazzaville, c'est cet après-midi, c'est un match qui se déroule en ligne à partir de 16h.
Inès, ouvrant cette édition avec cette marche ce matin à Bangui des pro-pouvoirs contre Anissé Georges Doléguilé.
Les manifestants exigent à l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire du chef de file de l'opposition. Marche encadrée par la police malgré l'interdiction du ministère de la Sécurité publique. Armando Yanguindi, reportage.
Ils sont plus d'un millier à prendre la rue encadrés par la police et en dépit de l'interdiction de hier sur les ondes des médias d'État. La colonne est partie du stade 20 000 places avec comme point de chute l'Assemblée nationale. À première vue, des élèves, des femmes et certains cadres proches du président Touadéra scandent des mots forts sur les banderoles. L'on peut lire entre autres « Doléguilé devant la barre pour injure au peuple, rendez-vous au mois de décembre 2020 ». Tous se sont réunis autour de la plateforme dénommée « Galaxy 3003 ». Ici, devant l'Assemblée nationale, ils ont entonné l'hymne national avec la complicité d'un groupe de fanfares. Emmy Mirandom est remis à l'Assemblée nationale. Il est réceptionné par Mathurin Dimbele Nakwe, deuxième vice-président, membre de la majorité présidentielle. Éloge Dr. Vekoy, l'un des organisateurs de la marche.
Anissé Georges Doléguilé, mu par une haine viscérale contre le président Faustin Archange Touadéra et son régime, s'est mis dans une posture de hors-la-loi en brillant par des propos insolents, grossiers et mensongers contre les autorités de l'État, en particulier le président Touadéra.
Ses pro-pouvoirs ont mis la barre très haut en lançant un ultimatum aux députés de répondre dans un bref délai à leurs préoccupations. Éloge Dr. Vekoy.
Je profite pour formuler une exigence. C'est de voir l'Assemblée nationale se prononcer sur la levée immédiate de l'immunité du sieur Doléguilé. Dans le cas contraire, le peuple centrafricain va se remobiliser pour venir ici, au palais du peuple, afin de le transformer en un second Ledger.
Dans cette foule, tout le monde ne partage pas la même cause, comme ce conducteur de taxi-moto qui dénonce la manipulation politique.
Non, j'apprécie pas ça. Je sais pas, ouais, si c'est la manipulation, je sais pas. Je ne peux pas écouter.
À la fin, les manifestants offrent un mouton aux élus de la nation en guise des propos attribués à Anissé Georges Doléguilé. Après partage d'argent mis à la disposition pour la circonstance, les manifestants se dispersent.
Armando Yanguindi sur Radio Ndekeluka.
La MINUSCA met en garde les groupes armés qui pourront encore perturber le processus d'enrôlement des électeurs dans la Waka et dans l'Ampindi.
Oui, déjà dans ces deux préfectures, 13 centres d'enrôlement ont été empêchés par les éléments de l'UPC et des 3R à enregistrer les électeurs. La mission onusienne réitère sa détermination à assurer la protection des agents recenseurs dans ces régions à risque afin de réussir les opérations dans le délai. Volonté exprimée hier à Bangui lors d'une conférence de presse. Vladimir Montero porte parole de la MINUSCA au micro de Fossemo de Sizegaba.
Par rapport au processus électoral, la force de la MINUSCA et l'Autorité nationale des élections travaillent actuellement pour assurer la sécurisation des agents recenseurs dans les zones où l'enrôlement des électeurs n'avait pu avoir lieu. La mission rappelle qu'elle ne tolérera aucun obstacle à l'opération d'enrôlement et met en garde sous-groupes armés menaçant de perturber le processus. La MINUSCA lance un nouveau appel à Ali Darassa pour qu'il mette fin immédiatement aux activités déstabilisatrices et à la politique expansionniste sionistes de l'UPC, notamment à Bambouti. La MINUSCA réaffirme son engagement à travailler avec le gouvernement et l'ANE pour que tous les obstacles puissent être levés le plus rapidement et que les délais et le calendrier électoral puissent être respecté. Quant au volet politique du processus électoral, la MINUSCA encourage le dialogue entre tous les acteurs pour un processus électoral apaisé et inclusif et se félicite de la mise en place prochaine du cadre de concertation. Dans le cadre de ses bons offices, le représentant spécial a rencontré des représentants de la mouvance présidentielle, de l'opposition, de la société civile et d'autres acteurs. Ce sont des rencontres au cours desquelles il a passé des messages de paix et il a appelé au dialogue et à la concertation.
Inès, parlons toujours de la mission onusienne. Elle se préoccupe de la situation sanitaire des gendarmes et policiers centrafricains.
La MINUSCA a remis hier des forages et un château d'eau construit à l'École nationale de la police et au camp de la gendarmerie nationale. Elle a aussi réhabilité et équipé l'infirmerie de l'École nationale de la police. Bienvenue Zoukoué, directeur général de la police, donne plus de précisions sur ses réalisations au micro de Maxime Lalaye.
L'École nationale de la police dispose en son sein une infirmerie digne de ce nom, avec une capacité de 20 lits, dont 10 pour le personnel masculin et 10 lits pour le personnel féminin, avec un bureau pour le chef de centre et avec des équipements, avec des médicaments. Le second projet, c'est la réalisation d'un château d'eau d'une capacité de plus de 19 000 litres. Donc l'école déjà est couverte tout entière et nous profitons également de ça pour ne pas garder tout ça au bénéfice seulement de la police, au bénéfice seulement de l'école, puisque si la police a aussi une mission de la protection des citoyens, nous dédions quelques robinets pour le bénéfice de la population environnante. Nous allons établir un planning là qui sera affiché à l'extérieur pour demander à la population de venir s'approvisionner gratuitement ici à l'École nationale de police.
Le coût de réalisation de ces ouvrages s'élève à plus de 65 millions de francs CFA.
Le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo, Jean-Claude Gassoko, est en visite de courtoisie à Bangui.
Porteur d'un message du président congolais à son homologue centrafricain, il a été reçu ensuite par la ministre centrafricaine des Affaires étrangères. Selon Sédéba Ipotimo, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Sylvie Ipotimo est avec Chris Roy Jordan Badengbe.
Mon collègue, le ministre des Affaires étrangères du Congo, a sollicité une audience avec moi sous forme de consultation politique afin de refaire un point sur les sujets d'intérêt commun. Parce que vous savez qu'au mois d'août l'année dernière, nous avons tenu la grande commission mixte entre la République centrafricaine et la République du Congo, où nous avons eu l'occasion de signer un certain nombre d'accords et de mémorandums d'entente, d'établir des sujets d'intérêt commun dans le cadre de notre relation bilatérale. Il était important pour nous deux de refaire un point sur l'ensemble des travaux menés depuis cette grande commission mixte jusqu'à aujourd'hui pour renforcer notre coopération bilatérale. Nous avons aussi beaucoup de projets en commun. Il est important pour la République centrafricaine de renforcer davantage cette coopération, notamment pour ouvrir d'autres voies, parce que vous savez que la République centrafricaine est un pays enclavé. Donc nous devons ouvrir d'autres corridors pour essayer d'ouvrir la République centrafricaine vers le monde, dans le cadre des échanges commerciaux ou de la mobilisation que nous voulons faire pour les investisseurs et autres, avoir des voies d'accès diverses pour accéder aux villes, ou en tout cas aux territoires centrafricains.
Inès, l'information, c'est aussi cette bonne nouvelle pour la République centrafricaine. La Banque mondiale accorde un nouveau financement au pays.
Un don de 50 millions de dollars américains, soit près de 28 milliards de francs CFA pour une période de 5 ans, de 2021 à 2025. Ce nouveau partenariat vise à appuyer des politiques de développement. Il aidera le gouvernement à mettre en œuvre des réformes structurelles visant à renforcer l'intégration sociale et la gestion budgétaire. Un partenariat pour renforcer la stabilisation, asseoir la légitimité de l'État et stimuler la croissance économique.
Venons-en à cette plainte des voyageurs entre Bangassou et Bambari.
Le tronçon distant de 350 km devient de plus en plus impraticable. Ceci est dû à la dégradation très avancée de la route. Conséquence, peu de véhicules empruntent ce axe et le prix de transport a augmenté. Précision de Jean Balipio.
Selon certains usagers que nous rencontrons à Bangassou, circuler sur ce tronçon est un véritable parcours du combattant. La route est remplie de flaques d'eau et de nids de poules. Après ces passagers, il est difficile aujourd'hui aux véhicules de rouler à une vitesse supérieure à 60 km par heure. Du coup, les véhicules de transport en commun qui quittent Bambari pour Bangassou peuvent passer au moins 5 jours. Or, à l'époque, les usagers ne passaient qu'une journée pour atteindre la destination souhaitée, payaient 10 000 à 15 000 francs CFA. Aujourd'hui, les dons ont changé. Le prix de transport en commun a augmenté. Un passager passagers, au lieu de payer 15 000 francs, il paye 20 000 à 20 000 francs selon l'entente entre lui et le conducteur. Un autre impact de cette dégradation qu'on peut souligner, c'est la non-évacuation des produits viviers agricoles en provenance de ces deux villes. Selon les usagers, mauvais état de route. Un autre impact de cette dégradation qu'on peut souligner, c'est la non-évacuation des produits viviers agricoles en provenance de ces deux villes. Ce mauvais état de route impacte plus ou moins négatif sur les activités économiques dans cette partie de la République centrafricaine. Il demande à cet effet au gouvernement de réparer ce tronçon. Jean Balipio Bangassou, Radio Ndekeluka.
Covid-19 en République centrafricaine, le nombre est stable depuis 48 heures. On compte 4711 malades, dont 1790 guéris et 62 décès.
Dans le monde, la pandémie progresse toujours. On compte aujourd'hui près de 26 millions de cas de contamination et plus de 858 000 morts. Alors que les élèves ont repris les cours le 1er septembre en France, le pays connaît un rebond de l'épidémie. Plus de 7 000 cas positifs au coronavirus ont été enregistrés durant les dernières 24 heures.
À l'international, les États-Unis ont annoncé hier des sanctions contre la procureure de la Cour pénale internationale, CPI, Fatou Bensouda.
Oui, Verdian, c'est le secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui a annoncé la décision. Les États-Unis qualifient la CPI de l'institution de corrompue. Ils dénoncent les enquêtes de l'institution visant des militaires américains déployés en Afghanistan. Selon Mike Pompeo, les États-Unis n'ont jamais ratifié l'accord de Rome qui a créé la CPI et ne pas ses tentatives illégitimes pour soumettre les Américains à sa juridiction. Selon RFI, Washington a donc décidé d'inscrire la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, ainsi que l'un de ses collaborateurs sur la liste noire. Des sanctions économiques sont également mises en place. La procureure de la CPI avait déjà été privée de visa en avril. Elle et son collaborateur n'auront dorénavant plus accès au système bancaire américain et les biens qu'elle pourrait avoir aux États-Unis sont donc gênés.
De son côté, la CPI condamne les sanctions économiques des États-Unis.
Selon la Cour pénale internationale, ces nouvelles mesures constituent une nouvelle tentative d'interférer avec l'indépendance de la justice et des poursuites de la Cour et son travail crucial pour lutter contre les crimes graves qui touchent la communauté internationale. Bienvenue Bello pour la page sport. Bienvenue, bonjour.
Bonjour Inès, bonjour à tous.
En sport, Scrabble Centrafrique-Congo, c'est prévu cet après-midi. C'est un match qui se déroule en ligne à partir de 16h.
Une rencontre comptant pour les quarts de finale de la Coupe des Nations de Scrabble classique francophone. Les Fauves sont confiants pour gagner ce match face aux Diables Rouges voisins de Brazzaville. Ils reçoivent le soutien moral de Thierry Bebona, un grand Scrabble centrafricain.
C'est un réel plaisir d'être là avec vous et d'encourager nos coéquipiers qui ont battu des grands pays du Scrabble, des grands pays francophones qui sont bien assis et qui sont surpris de découvrir qu'en RCA, il y avait des joueurs très talentueux, très compétents et qui maîtrisent la langue de Molière plus que eux-mêmes. Donc je les encourage à aller plus loin et de faire encore des exploits. Nos deux champions, on joue tous les jours, on s'entraîne. Là où le bas blesse, c'est les problèmes de fond. On joue sur Internet compte tenu du contexte sanitaire mondial, de le Covid, etc. Il faut des unités, il faut des forfaits, il faut une source d'énergie, c'est-à-dire il faut l'électricité pour brancher les appareils, pour que nous puissions jouer. Et ça fait défaut. Il faut avoir un ordinateur, il faut avoir les unités, il faut les forfaits. Et tout cela, c'est sous nos propres fonds que nous essayons de les aider pour représenter les RCA valablement.
Thierry Bebona demande au gouvernement et aux personnes de bonne volonté de venir en aide aux Fauves.
Nous lançons un appel au gouvernement, surtout au ministère de la Culture et de la Jeunesse, d'appuyer ce sport intellectuel. Et nous avons en commun la langue française, que nous développons beaucoup plus en RCA que dans certains pays qui se disent francophones. Vraiment, il faudrait que le gouvernement nous aide. Il n'y a pas que le gouvernement. Il y a des partenaires, il y a des hommes d'affaires, il y a des scrabophiles qui sont là dans ce pays, mais qui ne se manifestent pas ou qui ne savent pas que ce sport-là est pratiqué quotidiennement par certaines personnes. Et donc, nous faisons appel à toute cette panoplie de personnalités ou de personnes de bonne volonté qui veulent bien nous aider pour aller de l'avant et pour faire gagner notre équipe à cette compétition internationale.
Thierry Bebona était à votre micro. Bienvenue, Bello.
Hier, le Sénégal a battu le Maroc 4-1. La France a décroché son billet pour la demi-finale en battant largement la Grèce sur le score de 5-0. L'Algérie a éliminé le Cameroun par 3-2. La France et l'Algérie se croiseront donc en demi-finale le vendredi 4 septembre. Le vainqueur de Centrafrique-Congo affrontera le Sénégal en deuxième match de demi-finale le 5 septembre.
Élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Didier Drogba a saisi la FIFA alors que sa candidature à la présidence de la FIFA a été invalidée par la commission électorale.
Celle-ci a suspendu suspendu le processus et nommé une commission chargée du dossier. Le mauvais feuilleton continue. L'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football pour la succession de Sidi Diallo tourne à la comédie. Les derniers épisodes viennent de confirmer ces comédies. Le 26 août dernier, la commission électorale de la Fédération ivoirienne de football a rejeté les candidatures de Didier Drogba et de Paul Kouadio Kofi. Elle a validé celle de Souré Diabaté, vice-président de la Fédération et président de la Ligue professionnelle de football, et de Idriss Diallo, ancien numéro 2 de la Fédération ivoirienne. Une décision qui a immédiatement fait réagir le camp de l'ancien buteur et capitaine des éléphants ivoiriens, Didier Drogba.
Merci à vous, bienvenue Béloï. C'est la fin de ce journal sur les 100.9 FM. Restez branchés pour la version en langue nationale.